Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Alors que le pape François effectue jusqu'à mercredi un déplacement en Slovaquie, on s'interroge ce soir sur un recul du catholicisme. Alors pourtant, le nombre de catholiques dans le monde a légèrement augmenté ces dernières années. Il se situe à 1,329 milliards selon les chiffres officiels, mais il y a des indicateurs qui alertent. Par exemple, en France, dans les années 60, 95% des bébés étaient baptisés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30%. Et les non-croyants sont de plus en plus nombreux parmi la jeunesse française. D'où nos questions ce soir. Quelle différence entre les pays du monde ? Ces différences constituent-elles une menace ? Bref, derrière les chiffres, le catholicisme est-il en perte de vitesse, voire, diraient certains, en voie d'extinction ? C'est notre débat ce soir.
RFI.
Et nos trois invités, d'abord à nos côtés en studio, Isabelle de Gaumin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef de La Croix, auteur de nombreux ouvrages. Je peux citer « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot ». Face à vous, Guillaume Cuchet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil, le dernier ouvrage que vous avez publié est pile dans le débat du jour. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Et Père Cédric Burguin, en ligne avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Prêtre du diocèse de Metz, vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Et je vais aussi citer le livre que vous avez écrit, « Prêtre envers et malgré tout ». Alors, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. D'abord, je vous pose la question, Isabelle de Gaumin, pour bien comprendre la situation. Est-ce qu'on peut faire un bref panorama des catholiques aujourd'hui dans le monde ? Où vivent-ils ?
Alors, il faudrait plus d'une demi-heure. En fait,
c'est vrai,
vous avez tout de suite dit, d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez tout de suite dit, attention, on peut dire que le catholicisme est-il en perte de vitesse ? Au niveau mondial, non. Et,
voilà.
Et c'est vrai, et donc c'est vraiment la première chose à laquelle il faut faire attention, même si la croissance continue, mais elle est moins importante qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est important. Et que même dans le monde et dans les pays où le catholicisme est au contraire très dynamique, notamment en Afrique et en Asie, on commence à avoir des indicateurs plus inquiétants du point de vue de l'Église, que sont notamment les ordinations de prêtres, de religieux et de religieuses qui sont un peu en diminution. Mais enfin, ça reste quand même très vivant. Donc déjà,
ça, c'est un indicateur important. C'est-à-dire que voilà, les ordinations en baisse.
En tout cas,
même si le nombre de catholiques est en hausse, on retient d'abord.
On voit qu'il commence à y avoir des signes inquiétants. Et puis l'Amérique latine, qui a été très longtemps à la pointe du catholicisme mondial au niveau démographique, au niveau de la population, est aujourd'hui, alors elle, en sacrée perte de vitesse. Et au Brésil, notamment, les catholiques sont aujourd'hui rattrapés par les évangéliques. Voilà. Donc effectivement, on voit que les situations sont très contrastées. Et puis il y a l'Europe.
Alors le continent américain, il faut quand même dire, c'est près d'un catholique sur deux qui vit sur le continent américain.
Oui, c'est ça. Et puis,
donc c'est quand même
important.
Très important.
Et par exemple, aux États-Unis, le nombre de catholiques augmente assez fortement, notamment grâce à l'immigration qui vient des pays d'Amérique latine. Donc, c'est un catholicisme hispanique, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis alors après, il y a effectivement l'Europe où là, le catholicisme se porte le moins bien, où c'est très sécularisé. Et en Europe, il y a encore plus, c'est la France. C'est-à-dire que traditionnellement, la France est un pays où la sécularisation a commencé très tôt. Alors, bon, Guillaume Cuchel dirait beaucoup mieux que moi historiquement, mais c'est vrai qu'on peut dire que dès les années 50, les années 60, on a eu une baisse très importante du catholicisme, qu'on commence maintenant à voir, par exemple, dans un pays comme l'Italie, où très longtemps le catholicisme est resté à un niveau haut. Et puis après, il faut savoir, ça veut dire quoi être catholique ? C'est-à-dire pendant un temps, on calcule le nombre de baptisés, ce qui est effectivement la bonne définition. Il y a des sociologues qui calculent la pratique dominicale, et cette pratique dominicale est très en diminution, notamment dans les pays européens. Donc voilà, il faut aussi s'accorder sur qu'est-ce qu'on entend par catholique.
Alors donc, baisse, on a compris ce que nous dit Isabelle de Gaumin, baisse du nombre de catholiques. Alors on pourra s'arrêter sur la définition. En Europe, en Amérique, augmentation en Afrique. Guillaume Cuchet, la situation, elle est plurielle, ou est-ce qu'on peut, de là, donner une tendance générale ?
Non, elle est très diversifiée. Alors, c'est la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une question européenne, en quelque sorte, ou occidentale, avec une discussion sur la question de savoir si ce qui se passe aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est la même chose que ce qui se passe chez nous. À la fois, on se ressemble beaucoup, mais en même temps, on a un rapport religieux très différent. Donc, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est une question européenne, question française, et que la France, comme l'a dit Isabelle de Gauvin, il y a à la fois... Je veux dire, le rapport français au catholicisme, il est très particulier parce que la France a longtemps été la première puissance catholique du monde en termes démographiques, hein, au XIXe siècle. C'est le pays où il y a le plus de catholiques au monde. La fille aînée de l'Église, comme on disait, même si la formule ne date que du XIXe siècle, c'est une réalité. Donc un pays de christianisation très ancienne. Puis un pays qui a fourni les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde jusqu'à la guerre de 14, c'est-à-dire c'était encore le cas juste avant la Première Guerre mondiale, donc avec une influence missionnaire considérable, et qui, dans l'institution catholique elle-même, a fourni du théologien, de la réflexion pastorale, qui a percolé jusqu'au sommet, de sorte qu'on a pu dire que le Concile Vatican II, encore dans les années 60, qui est un moment de modernisation très important de l'Église catholique, était en large partie d'inspiration française, mais aussi allemande, belge, hollandaise. Mais vous voyez, ces théologiens européens ont fait, d'une certaine façon, la modernisation récente de l'Église catholique. De sorte qu'on a effectivement une situation paradoxale. Un pays qui a joué un rôle très important dans le destin universel du catholicisme et qui aujourd'hui, comme d'autres pays européens, mais plus encore que d'autres et plus anciennement que d'autres, est confronté à des phénomènes de recul du catholicisme.
Je vais citer un chiffre pour illustrer ce que vous dites concernant la France. En 1981, les catholiques constituaient 95% des pratiquants réguliers. Aujourd'hui, ils sont plus que 53%, 2% des Français qui vont à la messe aujourd'hui tous les dimanches contre 25% en 1950. Voilà, c'est deux chiffres pour illustrer votre propos. Ce que vous voulez nous dire, c'est que la France est un peu baromètre sur ce sujet ?
En tout cas, la France est le pays où on le connaît le mieux, ces taux de pratique, parce que le clergé français a eu la tête très sociologique et a compté les pratiquants intensément pendant 20 ou 30 ans, de sorte qu'on a des archives kilométriques sur le sujet. Donc effectivement, on peut mesurer ce décrochage et le dater dans son dernier état, dans les années 60-70, pour arriver au score qu'on connaît aujourd'hui.
Et c'est une chute qui se poursuit, qui est en... Comment on pourrait qualifier cette courbe ?
C'est un déclin de longue durée qui a démarré au XVIIIe siècle, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments ça remonte, et des moments ça repart à la baisse, qui n'est pas homogène, parce que ça se passe pas forcément de la même manière dans le nord de la France, dans le sud, à l'est ou à l'ouest. Hein. Il peut vraiment y avoir des décalages très importants. Ou dans la société française, des milieux qui se recristianisent quand d'autres se déchristianisent. Il n'y a pas de traîne de commun, donc il faut regarder ça de très près. Il y a cette tendance de longue durée, et puis nous sommes pris dans un décrochage qui date des années 60-70, et qui a la particularité de durer. Il dure de sorte qu'on a affaire aujourd'hui, avec les jeunes gens d'aujourd'hui, à ce que j'appelle, moi, la troisième génération du décrochage.
Alors ça, c'est un concept très intéressant.
Des gens qui ne sont pas des décrocheurs, parce qu'ils sont nés décrochés.
Oui, c'est ça. Les parents ne sont pas catholiques. Ça, c'est quelque chose...
Les parents ne sont pas catholiques, voire même maintenant, je dirais, leurs grands-parents, quand ils sont relativement jeunes.
Et ça, alors, on a compris le rôle de la France, justement, dans le catholicisme, en tout cas, cette position un peu baromètre, comme je disais. Cette position de décrocheur, troisième génération de décrocheurs, c'est pas une spécificité française, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'observe pas ailleurs.
Alors, si le décrochage des années 60-70, on le retrouve dans beaucoup de pays occidentaux, y compris aux États-Unis, qui ont pourtant la réputation d'être beaucoup plus religieux.
Mais le fait qu'on soit en troisième génération de décrocheurs,
mais
comme
voilà,
vous disiez aujourd'hui,
ça... La différence, c'est qu'aux États-Unis, dans les années 70-80, il y a eu ce qu'on appelle un revival évangélique, comme il y en a souvent aux États-Unis, qui a bloqué le décrochage, en quelque sorte, dans une ou deux générations. Et ceux qui avaient décroché sont revenus d'une certaine façon élever leurs enfants dans les églises et les temples dans les années 70, 80, 90. Alors que chez nous, en Europe de l'Ouest notamment, ou en France, on n'arrive pas, l'Église catholique n'arrive pas à bloquer l'hémorragie. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un élargissement du problème. C'est ça qui est la différence, à mon avis.
Isabelle de Gaumont, on voudrait passer la parole à Cédric
Gabriel. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez en France de moins en moins de gens, et Guillaume Couchet le sait bien, qui sont baptisés et surtout qui meurent chrétiens. Et c'est ça qui impressionne beaucoup. C'est-à-dire avant, la mort, eh ben, elle se faisait à l'église et elle se fait aujourd'hui de moins en moins à l'église. Et ça, c'est un signe.
Ça reste un rite catholique important.
Alors ça reste important, mais je pense que dans 30 ans, la majorité des Français ne mourront plus à l'église.
Père Cédric Burguin, vous avez dû écouter avec attention ce qui a été dit. Comment est-ce que vous, qui êtes prêtre du diocèse de Metz, vous observez sur le terrain, j'ai envie de dire, ce recul de la pratique du catholicisme en France ?
Moi, je suis d'accord avec les constats qui ont été faits. Je les amplifierai même un tout petit peu parce que on peut rappeler que la crise du Covid que nous avons connue, que nous connaissons depuis 2 ans, a accéléré ce phénomène de baisse de la pratique. Maintenant, je voudrais aussi rappeler que l'histoire de l'Église, même si la France, et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais dans l'histoire de l'Église, l'histoire n'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Et même si la France a tenu une place particulière dans l'histoire de l'Église en termes de théologie, d'évangélisation, d'envoi de missionnaires, etc., elle a aussi connu ces crises. Et l'Église catholique n'a pas une histoire linéaire comme si elle était aujourd'hui sur une pente descendante de manière inéluctable.
C'est ce que disait Guillaume Cuchet, d'ailleurs.
Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que je rejoins les propos qui ont été tenus. Il y a quand même plusieurs éléments qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que, certes, il y a des crises dans l'Église catholique, mais ceux-là ont toujours engendré dans l'histoire des renouveaux particuliers et qui n'étaient pas tellement prévus et qui étaient inattendus. Alors, vous permettrez que le prêtre que je suis, qui est croyant, fasse appel à la Providence et à l'action du bon Dieu en ce monde. Et donc, au sortir de la Révolution française, l'Église de France n'était pas en très grande forme. Et quelques dizaines d'années après, au milieu du XIXe siècle, alors pour plein de raisons, y compris des raisons politiques, l'Église de France avait retrouvé ses couleurs. Et donc, en fait, on ne peut pas envisager cette crise sans s'imaginer qu'en l'espace de 20, 30 ou 40 ans, il peut se passer quelque chose de très fort et d'inattendu. Et d'ailleurs, c'est cette espérance-là qui anime aujourd'hui mon cœur de prêtre, mais qui regarde avec réalisme la crise que nous vivons. Et c'est pour ça que j'amenais cet élément supplémentaire à votre débat, c'est que la crise de la Covid a accéléré la baisse de la pratique. Et en cela, ça doit nous interroger sur la manière dont l'Église se positionne aussi dans la société française, occidentale, européenne.
Alors, c'est très intéressant, les pistes là que vous avez évoquées de réflexion, et je vais faire réagir évidemment nos deux invités dans quelques instants, mais pour terminer un petit peu sur ce panorama du catholicisme dans le monde, vous qui êtes justement prêtre, je vais revenir à quelques chiffres au niveau mondial. Les prêtres en baisse de 0,3% entre 2013 et 2018 dans le monde. En revanche, les évêques, c'est l'annuaire pontifical de 2020 que je cite, hein, les évêques, le nombre d'évêques en augmentation ces 5 dernières années de plus de 3,9%. Alors, comment vous interprétez ces chiffres, Père Cédric Burguin ?
Alors en fait, ça s'explique très bien et je vais vous expliquer cela par une petite boutade. Autant on peut avoir la vocation de prêtre, autant normalement on n'est pas censé avoir la vocation d'évêque. Et donc, si les vocations de prêtre sont en baisse, ça s'explique par des questions un peu sociologiques de baisse aussi de l'engagement dans la durée. Il n'y a pas que le sacerdoce qui est en crise. Un certain nombre d'engagements définitifs, et pas que dans les religions, portent aujourd'hui une crise. Et en fait, le nombre d'évêques est en augmentation. Vous savez que je suis un canoniste, c'est-à-dire un spécialiste du droit de l'Église. En fait, l'Église catholique étant en croissance de par le monde, elle a augmenté ses structures ecclésiastiques. Or, la plupart du temps, à la tête d'une structure ecclésiastique, on met un évêque. Et donc, au fur et à mesure où l'Église catholique étend son territoire, elle crée des diocèses et donc nécessairement, elle nomme de nouveaux évêques sur des diocèses qui n'existaient pas avant. Donc, l'augmentation des évêques, on peut l'expliquer, mais ça n'est pas du tout en lien avec la baisse des vocations. Faut pas mettre les deux chiffres en parallèle, je pense que ça n'a pas de rapport.
Et merci pour cette clarification. Ce qui est alarmant, et c'est ce que vous dites dans votre première intervention, Isabelle de Gaumont, c'est la crise des vocations, comme le dit le père Cédric Burguin, qui dit qu'il peut se passer quelque chose d'inattendu dans les dans les 10 prochaines années, dans les prochaines décennies. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors déjà, crise des vocations de prêtres.
Oui.
Bon, on peut aussi imaginer une église où les prêtres soient très peu nombreux. Ça existait notamment, par exemple, en Corée, hein, pendant des dizaines d'années. La Corée, il y a eu très peu de prêtres. Et c'est quand même une église qui a été très vivante. Donc voilà.
Ça, c'est pas un problème parce que justement.
En tout cas, c'est un problème de structure aujourd'hui parce que l'église, elle est beaucoup organisée autour des prêtres. Mais on peut imaginer, des laïcs qui soient plus actifs dans les structures de l'église et une église avec moins cléricale, avec moins de prêtres.
Parce que la situation aujourd'hui, j'ai vu, sur le continent américain, c'est là que se trouve le plus grand nombre de catholiques, on l'a dit, hein, près d'un catholique sur deux qui vient en Amérique. Mais c'est en Europe que se trouve le plus grand nombre de prêtres. Or, en Europe, il y a une baisse du nombre de catholiques. Oui, Est-ce que ça, c'est inquiétant?
C'est-à-dire qu'en Europe, les prêtres sont très âgés, en fait. Donc, ils sont en Europe. Il y a beaucoup de missionnaires, d'ailleurs, qui sont rentrés. Et puis, il y a beaucoup de prêtres âgés. Voilà, dans 15 ans, il y aura un trou. C'est sûr. Après, la question que vous posiez et que Cédric Burguin posait aussi, c'est qu'intéressante, c'est comment on fait, comment on répond. Et je trouve que de ce point de vue-là, on pourrait prendre l'actualité. C'est-à-dire que vous faites cette émission parce que le pape, il voyage en Europe centrale. Il était en Hongrie hier, là, il est en Slovaquie. Et en Hongrie, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est une église qui a été un peu le contre-pouvoir au parti communisme, donc qui a été une église martyr, une église de défense, et qui est sortie de la période communiste avec pas mal de prestige, et qui aujourd'hui est confrontée, pareil, à la sécularisation, à la baisse de la pratique. Et par rapport à ça, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui est celle d'aujourd'hui d'un certain nombre d'évêques hongrois, encouragés par Orban, qui disent il faut que l'église soit le refuge de la civilisation chrétienne face aux migrants, face à cette Europe à tout vent, etc. Et donc une réponse un peu, on va dire, forteresse, de faire de l'Église une forteresse et un endroit où on peut se réfugier. Et puis il y a une réponse qui est celle du pape, qui est là-bas et qui dit au contraire, mais non, ouvrez-vous, allez en dialogue, c'est ce qu'il faut, c'est une Église de la diversité. Et puis c'est tout son discours sur l'accueil aux migrants. Donc on voit bien que par rapport à...
Il y a plusieurs voies, vous voulez nous dire ?
En tout cas, il y a plusieurs... il y a plusieurs... possibilité de répondre à cette crise de l'Église, soit en faisant une forme de sauvegarde, l'instrument qui va nous sauver de l'étranger, de la migration, etc. Soit en se disant, au contraire, il faut que l'Église s'ouvre, il faut qu'elle soit entendue par tout le monde, il faut qu'elle entre en dialogue, et c'est comme ça qu'elle retrouvera de l'énergie et de la vivacité.
Guillaume Cuchet, comment enrayer cette chute du catholicisme sur lequel vous êtes d'accord tous les trois?
Si je le savais, ce serait formidable. Je ne sais pas.
En tout cas, en écho à ce que vient de dire
Isabelle Le Gomain, je crois que parmi les gens qui observent ça, il y a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a aujourd'hui un peu deux écoles. Vous avez des gens qui pensent que, au fond, le catholicisme occidental, européen en particulier, qui n'est pas très en forme, qui est un petit peu essoufflé, est en train de devenir un peu périphérique dans le monde catholique et que ça fait, disons, 200 ans, 300 ans qu'on essaie de faire boire cet âne qui n'a pas soif, avec des résultats médiocres, de sorte qu'il serait plus avisé de réorienter l'apostolat catholique et d'aller dans les continents, sur les terres, qui ont soif du christianisme et de l'évangile. Au fond, secouons la poussière de nos sandales, passons dans les autres mondes et laissons tomber ce cœur historique de la chrétienté qui, manifestement, pour des raisons X ou Y, mais très singulières, qui tiennent à son rapport au christianisme, à des raisons politiques, culturelles, a l'air d'être un petit peu fatigué du christianisme. Puis vous avez une autre école, et c'est peut-être un petit peu le raisonnement du pape François, qui se dit, au fond, ça se passe ailleurs désormais.
Jouons sur la vivacité d'autres régions au détriment de l'Europe.
Allons là où ça marche, là où il y a des circonstances, des conditions de réception du christianisme qui sont plus favorables. Et puis vous avez une autre école, je simplifie un peu le tableau, mais je crois quand même qu'on peut les distribuer de cette manière, de gens qui disent, écoutez, même si les indices du catholicisme ou du christianisme européen ne sont pas très brillants depuis 50 ou 60 ans, malgré tout, c'est dans le cœur historique de la chrétienté que les choses continuent de se passer, en ce sens que les problèmes les plus aigus de la modernité se posent ici, et que les expériences que font les chrétiens européens et les catholiques au premier chef, expériences difficiles, douloureuses parfois pour eux qui changent de format sans trop savoir jusqu'où ils vont descendre, ces expériences ne sont pas exceptionnelles, singulières, elles sont prototypiques, c'est-à-dire que demain, à leur rythme, selon leurs modalités particulières liées à leur culture et à leur situation, les différents continents catholiques en viendront à ce genre de problème. Et que Par conséquent, c'est encore ici que ça se passe. Mmh. C'est-à-dire que si le christianisme doit faire la preuve de sa capacité, et je crois qu'il l'a, à surmonter ces défis radicaux de la modernité, c'est encore ici que ça se passe, dans nos rangs clairsemés, dans la jeunesse catholique persistante, mmh. qui est confrontée à des difficultés très lourdes, très douloureuses, mais qui a quand même une mission assez exaltante, parce qu'en réalité, elle est sur le front pionnier. C'était peut-être plutôt la vision de Benoît XVI, si je devais simplifier un peu le tableau.
Je suis pas sûr que la première vision soit celle du pape François.
Ouais,
je sais pas ce qu'en pense le père Burgin.
Il n'a pas l'air de se presser de venir nous voir.
Écoutez,
par exemple,
il ne vient pas en France, mais enfin, il n'arrête pas d'aller en Europe. Par contre, c'est vrai qu'il dit jamais que l'Europe est le cœur du christianisme. Ça, lui, il vient de l'Amérique latine.
On va poser la question au père Cédric Burguin. Est-ce qu'il faut tourner le dos à cette Europe où on observe ce déclin du catholicisme, ou est-ce qu'il faut au contraire reconstruire avec le vieux continent?
Alors, moi, un peu par expérience et par habitude, je me méfie toujours d'une Europe et d'une France qui seraient orgueilleuses de son intelligence, de ses lumières, de son histoire, comme si elle avait la clé à la solution à tout, y compris à sa propre crise. Donc, je ne sais pas dans quelle école il faut mettre les différents papes. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce que j'ajouterais personnellement, c'est que en fait, on pense toujours le catholicisme comme s'il était obligé de faire nombre. Mais dans la théologie chrétienne et catholique, le prophète à la suite du Christ n'est pas celui qui va nécessairement attirer les grandes foules. Alors, comme on a toujours été habitué, enfin toujours, depuis un petit siècle d'ailleurs, comme on a été habitué à avoir les églises de toute la France pleines à quasiment un taux de pratique à 85%, on s'est habitué à cette vision du catholicisme tout puissant et installé dans la société. Or, si vous reprenez là aussi l'histoire de l'Église, Les grandes forces du catholicisme n'est pas d'abord dans son nombre, c'est la manière dont un petit noyau est capable d'agiter une société et de la convertir de l'intérieur. Je rappelle souvent à mes séminaristes, puisque je suis père dans un séminaire, que Jésus a commencé avec 12 et que dans l'évangile de Jean, quand il a un discours un peu radical, il y a une foule de 5000 personnes qui le suivaient, ils partent tous. Et Jésus pose la question à ses disciples, il ne reste plus qu'eux, et vous aussi voulez-vous partir? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut nous garder de la tentation de ne voir le catholicisme et sa puissance réformatrice ou qui convertit, je cherche mes mots,
que par les pratiquants,
que par le nombre des pratiquants.
Mais sauf
et c'est pour ça que je vous parlais de surprise tout à l'heure, parce que
alors vous allez m'expliquer.
Catholicisme, on ne le juge pas non plus simplement avec des chiffres statistiques.
Oui, sauf attendez Isabelle de Gaumont, je voudrais juste terminer là-dessus parce que vous pointez du doigt le fait que effectivement c'est pas le nombre qui fait la différence finalement et qui témoigne d'une vivacité ou pas de une vitalité de l'Église catholique, mais et Isabelle de Gaumont l'a pointé, y a de moins en moins de prêtres, on l'a dit, et ils sont de plus en plus vieux. Est-ce que ce n'est pas ça le problème?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église catholique, notamment en France et en Europe, vit une crise, donc je le reconnais volontiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas simplement s'arrêter au nombre de, aux chiffres statistiques. Et alors, par rapport aux prêtres, alors Guillaume Cuchet connaît mieux les statistiques que moi, mais globalement, quand on regarde le taux de prêtres par rapport au nombre de pratiquants dans les années 50, et si on regardait aujourd'hui le nombre de prêtres par rapport aux pratiquants, je ne suis pas sûr que ce taux soit si différent. Parce qu'on parle du manque de prêtres, mais moi ce que je vois aussi, c'est que dans un certain nombre de paroisses, les églises sont assez vides. Et donc, je veux dire, et bien souvent, on sait que le taux de pratique est aussi en rapport, et d'ailleurs Benoît XVI l'avait pointé, est aussi en rapport avec la vitalité d'une église et la vitalité sur les vocations. Et donc cette question, il faut aussi qu'on puisse l'aborder sereinement.
Alors, justement, vous avez interpellé sur cette question, Guillaume Cuchet, Votre réponse au père Cédric Burguin.
Non, mais ça me paraît tout à fait juste. Mais j'ajoute simplement sur la question du ratio nombre de prêtres pour nombre de pratiquants, ce qu'on appelait jadis le taux d'encadrement ecclésiastique des populations. Ça fait un peu PC, mais enfin, c'est comme ça. Il faut quand même voir le problème en tendance. C'est-à-dire que l'une des difficultés de l'Église depuis 60 ans, notamment en France, c'est qu'il y avait effectivement un taux d'encadrement extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment un prêtre par commune. Puis la crise des vocations, qui a démarré dans les années 50, avant le Concile, a débouché sur une situation telle que, progressivement, l'unité de base du système a cessé d'être la commune pour devenir le chef-lieu de canton ou le chef-lieu d'arrondissement, au moins dans les campagnes. De sorte que la pratique est devenue évidemment beaucoup plus compliquée pour beaucoup de gens qui ont eu à se déplacer. Et c'est la crise de l'offre, en quelque sorte, des vocations, qui a fini par cisailler la demande de pratique. C'est-à-dire, comme la pratique est devenue assez compliquée, l'effondrement de la pratique rurale est en partie lié à l'effondrement des vocations. Mmh. C'est-à-dire la capacité à tenir le maillage dans une pratique de proximité auquel les Français étaient habitués. Ils avaient des habitudes de luxe extraordinaires, parce qu'il y avait très peu de pays qui avaient autant de prêtres.
Ça pose la question de est-ce que l'avenir du catholicisme sera urbain ?
Alors, ça pose aussi cette question-là, effectivement.
Isabelle de Gomain.
Non, je pense que... Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais peut-être que, plutôt que de parler du nombre et de dire est-ce que c'est important ou pas d'être nombreux, c'est quand même un problème de transmission qui se pose aujourd'hui.
Ça, c'est un point important.
Notamment dans les pays européens. C'est-à-dire que, quand vous avez aujourd'hui des jeunes de 30 ans qui n'ont jamais rencontré dans leur vie un prêtre, et que l'Église catholique, elle est encore très structurée par rapport aux prêtres, c'est embêtant, parce que du coup, ils savent pas ce que c'est que le christianisme. Vous allez dans la rue aujourd'hui en
Alors
France,
c'est une question de pratique ou d'éducation à la religion.
C'est d'éducation, de catéchisme, de rencontrer des gens qui vous expliquent c'est quoi la foi catholique,
c'est quoi la foi
chrétienne. Ça, effectivement, le nombre de confirmations, qui est un bon indicateur. Hein. Les gamins sont confirmés, donc c'est un sacrement important pour l'Église. Alors, ça dépend des âges, etc. On va dire que c'est vers l'adolescence. Ça a baissé, mais alors de manière incroyable. Mmh. C'est-à-dire que même moi, bon, je suis peut-être un peu âgée, mais quand j'étais confirmée, on était des cathédrales entières. C'était avec l'évêque, il y avait énormément de monde. Aujourd'hui, il y a un petit groupe de gamins regroupés autour de leur évêque, 10, 15, 20, un peu plus à Paris. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, voilà, moins de 30 ans, qui n'entendent jamais parler de l'Église. Ça se voit dans leur culture, parce que du coup, ils sont incapables de juger des tableaux et de l'histoire de France quand on n'a pas de culture chrétienne. Et puis ça se voit dans leur pratique, dans leur foi, parce qu'en fait, il y a un grand rien. Mmh. Et c'est ça le problème, moi, je pense, plutôt que le nombre, c'est plutôt comment est-ce qu'on transmet aujourd'hui cette foi avec les moyens qu'on a et effectivement beaucoup moins de prêtres.
Père Cédric Burguin, vous voulez réagir ?
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec Isabelle de Gaulmin et je préciserai un point, c'est que cette transmission, elle n'est pas simplement vis-à-vis des jeunes qui ignorent tout de la foi catholique. D'ailleurs, le journal La Croix avait publié, je ne sais pas si Isabelle s'en souvient, ils avaient publié un sondage il y a 4-5 ans sur la foi des pratiquants et ce sondage révélait que seulement un catholique pratiquant sur deux croyait véritablement à la résurrection du Christ. Et donc, je trouve qu'une autre question que nous devons aussi prendre en compte dans cette question de la transmission, c'est la manière dont l'Église est capable en interne de transmettre cette foi pour qu'ensuite les chrétiens soient capables de la rayonner à l'extérieur. Parce que si on va trop vite à l'extérieur mais qu'on n'a pas les fondements à l'intérieur, le message à l'extérieur risque d'être un peu faible. Et je pense que c'est aussi à interroger dans cette crise de la transmission.
Mmh, donc, comme la crise des vocations, finalement. Donc, la balle encore dans le camp de l'Église.
Ah bah oui, bien sûr. C'est toujours facile d'accuser le monde de nos propres difficultés, de nos propres manques de pratiques, etc. Hein, en fait, la crise, elle est à interroger à l'intérieur de l'Église, évidemment.
Mais alors, pardon, parce que vous avez évoqué, on approche déjà presque de la fin de l'émission, mais Père Cédric Burguin, je voudrais encore vous entendre, vous avez affirmé qu'il pourrait se passer quelque chose d'inattendu dans les prochaines années, vous pensez à quoi ?
Ah ben, je vais vous prendre trois exemples. Vous me permettrez si j'ai rapidement.
Bien sûr.
Quand il y a eu une crise de la théologie, ça s'est fini par un schisme avec Luther. Quand il y a eu une crise de la papauté, ça s'est fini avec Sainte Catherine de Sienne qui a secoué les papes et qui est sortie entre guillemets de nulle part pour aller les prier de remettre un peu l'Église au cœur du village. Et quand les évêques étaient pris dans le luxe, le bon Dieu a fait émerger saint François d'Assise, qui a rappelé à l'Église son devoir de pauvreté. À chaque fois, il peut y avoir un message évangélique qui germe d'un côté et qui transforme l'Église de l'intérieur.
Isabelle de Gomain, le mot de la fin, très rapidement.
Oui, l'inattendu, c'est aussi quand un monument comme Notre-Dame brûle, et ben vous avez tous les Français qui pleurent. Mmh. Et ça, c'est quand même aussi une marque d'attachement à laquelle il faut faire attention.
Eh bien, on va terminer avec cette note d'espoir et d'optimisme. Merci Isabelle de Gomain, rédactrice en chef de la Croix. Merci au père Cédric Burguin, en ligne avec nous, prêtre du diocèse de Metz, vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, et merci Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil. Merci à Florence Ponce à la préparation, Jean-Philippe Thiori à la réalisation. Merci à la documentation de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, c'est le journal.